Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et c'est en Inde que nous serons dans l'escale reportage d'un jour dans le monde dans un instant. L'homosexualité, une fois dépénalisée, c'était le mois dernier. Il n'y a pas que les gays qui sont sortis du placard, les commerces aussi, les bars, les restaurants. Et Sébastien Farcy nous emmène dans un New Delhi gay qui est quasiment sorti de terre en à peine un mois. Sous les radars et Amélie Perrier sur l'île de Leonardo DiCaprio qui est trop pollué et avec Amazon en Afrique notamment. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier, un documentaire d'animation. Ce mercredi, c'est une quête et une enquête après la mort d'un journaliste en Yougoslavie qui hante toute une famille. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four au Brésil avec une extrême droite qui caracole en tête et qui plaît au marché. Et si les marchés sont contents alors? Mais d'abord, je vous emmène en Chine et je vous y emmène en voiture électrique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Le salon de l'auto ouvre donc demain jeudi. Déjà, vous savez ce que tout le monde va nous montrer. Les fameuses voitures électriques et les voitures autonomes d'ailleurs aussi. Tout ce qui n'est pas polluant, tout ce qui est encore moins diesel. Enfin, là-dessus, peu de surprises finalement. Mais du coup, si tous les constructeurs sont sur ce créneau, qui la gagne, cette bataille? Est-ce qu'on regarde de toute façon vers la Chine, la grande faiseuse, et nous autres derrière, en train d'essayer de courir derrière ou pas? C'est un peu notre question du jour. Bonjour Laurent Petitzon.
Bonsoir.
Bonsoir aux spécialistes du secteur automobile chez Alix Partner. Je vais vous poser la question comme ça, même si on développera derrière. Est-ce que effectivement, dans la guerre de l'électrique que se livrent les constructeurs, de toute façon, on sait déjà que le vainqueur, c'est la Chine?
Ce qu'on peut dire, c'est que le véhicule électrique sera chinois ou ne sera pas, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, le marché chinois va bientôt représenter une taille équivalente à l'Europe et les États-Unis ensemble. Donc, ce qui se fait en Chine se fera ailleurs, et ce qui ne se fait pas en Chine a peu de chances d'arriver. Ensuite, c'est vrai que les Chinois ont pris une avance sur le véhicule électrique, sur les batteries en particulier, et sur les autres éléments de l'écosystème du véhicule électrique. Pour qu'un véhicule électrique puisse fonctionner, il faut plusieurs conditions. L'une d'entre elles, c'est une régulation favorable et stable. C'est aussi une batterie qui soit disponible et peu chère, une infrastructure aussi qui soit disponible et peu chère, et un recyclage aussi des batteries qui soit possible.
Et là-dessus, effectivement, ils ont une avance considérable. On dit qu'ils produisent en gros 65% des batteries électriques mondiales. C'est un chiffre qui vous paraît juste?
Effectivement, oui, ils arrivent vers les 2/3 de la production aujourd'hui. Et ils contrôlent aussi une grande partie des éléments qui rentrent dans les batteries, donc les métaux rares, le cobalt, le nickel, donc toute la chaîne de valeur.
Bah 80, plus de 4, pour le coup, c'est combien? C'est plus de 90%. 90% non, des métaux rares, c'est en Chine qu'on les extrait. Le cobalt, il est raffiné en Chine également. Qu'est-ce qui échappe à la Chine, finalement, en termes de matières premières pour fabriquer ces batteries?
Pas grand-chose. Un peu la technologie, puisque beaucoup des batteries fabriquées en Chine sont en fait des batteries Panasonic ou LG. Mais pour tout ce qui est batterie et moteur, c'est vrai que la Chine s'achemine vers une part de marché presque monopolistique et des prix à peu près imbattables pour les Européens.
Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu la construction du moteur intégralement, en fait? Dans la construction de la voiture, nous, désormais, est-ce que tout ce qui est de la propulsion, c'est plus nous, en fait, mais du tout. On a perdu cette part-là, en fait.
C'est un risque réel. Enfin, c'est surtout la batterie. Hein, le moteur électrique représente moins. Mais effectivement, c'est un risque réel aujourd'hui. Cela dit, la technologie en elle-même n'est pas compliquée. Le problème, c'est plutôt la fabrication et la courbe d'expérience qui permet en fait d'arriver à des prix inférieurs à ce qu'on peut faire ailleurs. C'est la taille des usines aussi, entre autres.
Donc ça veut dire que c'est impossible d'imaginer qu'on puisse fabriquer nos propres batteries un jour, par exemple, ou pas?
Tout peut changer. Il y a eu des promesses dans le passé à ce propos qui n'ont pas forcément abouti. La technologie peut changer, ce qui peut ouvrir des nouveaux horizons pour les Européens et les Américains. Et en fait, on n'est pas en retard sur le véhicule électrique ou la mobilité électrique en elle-même. Hein. Aujourd'hui, les Chinois ont fait à peu près 60% des lancements de véhicules électriques dans le monde ces dernières années. Et ça change à partir de 2019. Hein. Les constructeurs européens en particulier lancent énormément de véhicules à partir de 2019. Donc la messe n'est pas dite sur le véhicule lui-même.
Mais alors, pas sur le véhicule lui-même, mais sur la quantité du véhicule, probablement oui. Est-ce que ça veut dire... Il y a déjà des participations chinoises, notamment dans Peugeot, et pas seulement. Donc est-ce que ça veut dire qu'à terme, de toute façon, un moment ou un autre, ces véhicules électriques chinois, et qui sont beaucoup moins chers, on les verra ici, y compris dans nos rues, et on en verra beaucoup plus finalement même que nos voitures électriques estampillées Peugeot ou Renault.
Je pense que pour les constructeurs chinois, la priorité c'est d'abord le marché chinois. Ils en contrôlent moins de 50%, et c'est le plus gros marché du monde et celui qui croît le plus vite. Donc c'est clairement la priorité, et c'est celui qui est le plus favorable aux véhicules électriques de toute façon. Donc ça va d'abord être la Chine pour eux. Donc on risque d'en voir en Europe, mais il faut que leurs véhicules fassent quelques progrès, par exemple sur les crash tests, etc.
Ils sont pas bons pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire que la bataille qu'on gagne pour l'instant, c'est qu'on n'a pas confiance dans le véhicule chinois, en gros ?
C'est une partie de la question, mais là où les Chinois peuvent vraiment gagner la bataille, c'est pas sur le véhicule, ni même en réalité sur la batterie, c'est sur le concept de mobilité propre. Donc au-delà de l'industrie automobile, qui comprend tout ce qui est l'intermodalité, avec des tramways électriques, des trains électriques, des bus électriques, etc. Et toute une intégration. Et en fait, les Chinois construisent des démonstrateurs à taille réelle sur pratiquement toutes leurs villes de la côte. Donc dès l'an prochain, on verra des voitures sans chauffeur, des taxis sans chauffeur électrique à Shanghai.
Et donc ils seront un démonstrateur. Rouler. Donc on n'est plus on n'est plus dans l'expérimentation comme ça avait été le cas, y compris à Shanghai si je ne m'abuse, mais aussi à Pittsburgh, etc.
Ou à Singapour.
Ou à Singapour, donc on est dans le réel en fait, et ou à Lyon, vous avez raison.
Oui, tout à fait, et Didi par exemple, qui transporte quand même deux fois plus de personnes que Uber, est probablement en tête dans cette course pour arriver à la voiture sans chauffeur en taille réelle sur une ville aussi grosse que Shanghai. Et ensuite ce modèle, une fois intégré, vous passez de la voiture sans chauffeur électrique au train à haute vitesse électrique, au tram, etc., peut s'exporter, c'est un modèle complet qui peut s'exporter.
Mais c'est peut-être ça en fait le coup de génie, c'est d'avoir d'abord enjambé le thermique au fond, puisqu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas nous rattraper sur le thermique, donc ils vont directement à l'électrique. Et là même on est au-delà de la voiture électrique, puisqu'on est dans une forme de mobilité qui va bien au-delà, sachant très bien que s'il y avait autant de voitures en valeur absolue pour les Chinois qu'il y en a pour les Européens, plus personne n'avancerait en Chine, j'imagine. Enfin, ce serait un nombre absolument dément. Donc est-ce qu'ils ont toujours ce coup d'avance, en fait, c'est passer par-dessus, même y compris finalement la voiture électrique pour certains, dans certains lieux.
Après coup, effectivement, on peut avoir l'impression que c'était un coup de génie qui a été pensé il y a 15 ans et que tous les éléments sont mis en place d'une volonté unique. Le gouvernement chinois étant derrière la plupart des acteurs, évidemment la régulation, mais aussi les batteries, les constructeurs, l'infrastructure. C'est plutôt des éléments qui se sont construits les uns après les autres et finalement on aboutit à ça. C'est aussi un besoin, en fait, le besoin d'équiper toutes ces énormes villes et de les désengorger et de les dépolluer qui finalement arrive à cette solution. On a plus besoin de ce type de solution en Chine que partout ailleurs. Et donc c'est ça qui fait très probablement que maintenant ils sont en avance par rapport aux autres.
Et l'autre force, et peut-être que, alors on n'a pas envie évidemment d'avoir un gouvernement chinois, mais c'est que vous le disiez, c'est une impulsion qui vient d'en haut, c'est une impulsion autoritaire. Lorsque la Chine décide que les voitures seront électriques, ça veut dire que les constructeurs sont sommés d'être électriques. Encore une fois là-dessus, nous on a beau dire il faut que ce soit plus électrique, on n'a pas beaucoup plus de poids que ça, non ?
Voilà, c'est la grande force en fait du modèle chinois, c'est que derrière chacun des éléments de l'écosystème, donc le véhicule, la batterie, la régulation bien sûr...
Et les bornes, non ?
Les bornes, l'infrastructure, tout à fait, il y a les gouvernements chinois. Et donc tout ça avance d'une façon coordonnée et qui permet vraiment l'éclosion et l'utilisation de véhicules électriques. En Occident, c'est beaucoup plus difficile, ce sont des acteurs qui sont indépendants, qui sont privés pour la plupart, et qui chacun agissent selon leurs intérêts propres. Donc c'est moins coordonné.
Et nous, on se mord la queue, finalement. Pas de borne, donc pas de voiture. Pas de voiture, donc pas de borne. Et à la fin, on n'est toujours pas.
Tout n'est pas si noir. La France, par exemple, a une part de marché électrique qui n'est pas parmi les plus mauvaises. C'est un peu moins de 2%. La Norvège est le pays le plus avancé, avec 12% de part de marché dans l'électrique. Et en termes, par exemple, de tout ce qui est électronique, commande des aspects énergétiques du véhicule, les Européens sont très bien placés, les fournisseurs européens et les constructeurs. Et comme je le disais tout à l'heure, le nombre de véhicules qui vont être lancés par les Volkswagen, les PSA, etc., à partir de l'an prochain, fait qu'il va y avoir un certain rééquilibrage en fait, en termes de nombre de véhicules disponibles sur le marché européen par rapport au marché chinois.
Et à quel moment, parce que c'est aussi ça qui sera la clé, on va les voir parader effectivement au salon de l'auto et on les verra dans les rues évidemment aussi, puisqu'en plus il y a un certain nombre d'injonctions aujourd'hui dans certaines villes, c'est le cas à Paris, pour que les électriques prennent le pas, mais à quel moment le prix cessera-t-il d'être un handicap et un frein terrible en fait ?
Alors aujourd'hui, un véhicule électrique coûte environ 7 000 à 8 000 euros de plus qu'un véhicule classique. Cela dit, il y a effectivement des primes du gouvernement, 6 000 euros, bon, qui ne peuvent pas être tenables dans le temps. Quand on atteindra les 10% de parts de marché, comme en Norvège ou plus, ça deviendra assez cher. La question est vraiment celle de la convergence du prix des batteries. Donc c'est ça le surcoût essentiel. Pour l'instant, la courbe est assez impressionnante et la baisse est assez impressionnante. On est autour des $150 par pack. On aimerait bien atteindre les 100. Le problème, c'est effectivement le prix du cobalt ou du nickel qui risque de faire repartir le coût dans l'autre sens. Donc là, il y a une vraie question sur la compétitivité du prix des batteries pour les véhicules électriques.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison ? Par exemple, un véhicule chinois électrique coûte combien par rapport à un véhicule aujourd'hui fabriqué par un constructeur français, un constructeur européen ou même un constructeur américain ? Si on compare, y compris nous, Européens, voulant en acheter un et un Chinois voulant acheter une voiture électrique ?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, les véhicules ne sont pas au même niveau de normes en fait, sur les trois continents. Et c'est la batterie. La batterie représente à peu près 35% de la valeur ajoutée du véhicule. Donc ça ramène les choses à peu près au même surcoût en fait, par rapport au véhicule classique du marché en question. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible vraiment d'acheter un véhicule électrique chinois en France. Donc en tout cas, pas dans des grandes quantités.
Et pas maintenant et jusqu'à quand ça... On en sert une dernière question, Laurent Petitson. Les injonctions justement qui sont les nôtres aujourd'hui de passer au tout électrique à des horizons qui sont très proches, 2030-2040, tel que vous voyez l'évolution venir, tel que vous voyez les constructeurs s'activer, est-ce qu'elle vous paraît, vous, réaliste ou pas, cette échéance ?
Les constructeurs en tout cas investissent énormément. Ces 8 dernières années, ils ont investi environ 25 milliards de dollars et on pense que dans les 8 prochaines années, ça sera 10 fois plus, 250 milliards de dollars. Donc ils y vont à marche forcée pour éviter les pénalités très importantes à partir de 2021. Les questions portent plus sur l'infrastructure, l'investissement sur l'infrastructure et le coût de l'infrastructure et
donc,
sur effectivement
les bornes,
le prix des batteries.
Oui, et l'électricité des bornes donc ?
C'est pas tellement l'électricité, c'est le fait d'amortir la borne elle-même. Mmh. C'est la borne qui coûte cher, c'est pas tellement l'électricité aujourd'hui. Donc il faut que tous ces éléments soient réunis pour que l'électrique puisse passer. Et il y a d'autres solutions qui peuvent émerger en cours de route, comme l'hydrogène, et qui peuvent rendre ces investissements plus ou moins rentables.
Donc, voire caduques, d'ailleurs, voilà. Avant même d'avoir prouvé leur efficacité.
Donc le tout électrique est un pari, y compris au niveau technologique, et avec toutes ces questions qu'il faut résoudre pour créer un écosystème favorable.
Voilà. Et vous avez quoi comme voiture ?
J'ai une Lexus hybride.
Bon, donc vous avez à demi-bon.
Voilà.
Merci Laurent Petitson, spécialiste du secteur automobile chez Alix Partners. Merci mille fois.
Merci.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Inde, dans le New Delhi gay. C'est là que je vous emmène. Maintenant que l'homosexualité a été dépénalisée, c'est toute une économie qui sort de terre, ou du placard d'ailleurs, et Sébastien Farcy viendra nous le raconter. Sous les radars avec un chanteur hip-hop gay, tiens, justement, qui change peut-être un peu la teneur du hip-hop, en tout cas aux États-Unis. L'île de Leonardo DiCaprio aussi, qui est trop polluée, et Amazon en Afrique. Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Avec un documentaire d'animation, c'est une quête aussi, celle d'une femme qui veut connaître la mort de la vérité sur la mort d'un de ses cousins pendant la guerre en Yougoslavie.
Exactement, une histoire digne d'un film d'espionnage avec une question, ce cousin Chris était-il un journaliste, un agent suisse ou un mercenaire ?
Et on voit ça dans un instant avec vous, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Les marchés sont contents au Brésil, l'extrême droite va très bien donc c'est formidable.
C'est ça, 4 jours de la présidentielle, la bourse de Sao Paulo a choisi plutôt l'extrême droite que la gauche.
Et on voit ça tout à l'heure à 18h55, ne partez pas, le tour de la planète continue avec Fatoumata Diora Bonia.
Oh,
sombre, dites donc, Fatoumata Diawara. Ça a été rapide comme fin. Amélie Perrier est là et elle est sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakio Kapiom.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
On va garder notre sérieux, Amélie, c'est mercredi, on commence avec un film.
Et on va quand même un peu jouer, je vous passe la bande-annonce, il faut que vous reconnaissiez.
Allez-y. Ah bah il l'a dit.
Ah bah,
The Beach.
La plage, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet. C'était tourné, vous en souvenez, dans un paysage paradisiaque en Thaïlande. Cette plage est désormais fermée. Après le succès du film, ces eaux turquoises ont été prises d'assaut par les touristes et les dégâts sont bien pires que prévu. La plage de Koh Phi Phi devait rouvrir aujourd'hui, mais les autorités prolongent la fermeture. Dernièrement, Maya Bay accueillait près de 5000 visiteurs par jour, de plus en plus de Chinois, dont la plupart ne restaient que quelques dizaines de minutes avant de repartir sur des hors-bords. Conséquence, la pollution, des moteurs, les récifs coralliens massacrés. Une ONG annonce au moins 4 ans pour réhabiliter la plage. Oui, 4 ans. Et c'est pas un cas isolé en Asie. Aux Philippines, là, il n'y a pas eu de tournage, mais Boracay, l'île la plus courue de l'archipel, est interdite aux touristes jusqu'à la fin du mois. Elle était devenue une fosse septique, pour reprendre les mots du toujours très cru président Duterte. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'à sa réouverture, le nombre de touristes sera limité. L'alcool y sera interdit.
Okay.
Je vous passe un autre film.
Allez-y.
When there is crime in society, there is no justice.
J'adore.
Vous connaissez ?
Ouais, non, alors j'ai pas vu, je le vois marqué, mais j'adore cette voix. Sylvester Stallone.
Judge Dredd, c'était en 95. Une adaptation d'une BD, en fait. Et c'est
en fait,
bien...
si je l'ai vu le film, mais on n'a pas le droit
vous
de le dire.
Vous voulez pas l'avouer.
Mais non. Bah,
ouais, cachez-vous, oui. Et c'est bien du créateur de la bande dessinée dont je vais vous parler ce soir, un artiste espagnol, Carlos Esquerra. Il est mort avant-hier. Et aujourd'hui, le Guardian lui rend un hommage un peu spécial, car si Esquerra a commencé à dessiner à Barcelone, il a ensuite déménagé au Royaume-Uni pour travailler pour la revue 2000 AD, où il a publié les aventures, donc, de Judge Dredd. Et Jenny de son œuvre, salue aujourd'hui un éditorialiste anglais, reposant en partie sur la rencontre entre l'Espagne fasciste et le punk britannique. D'ailleurs, Esquerra lui-même le reconnaissait, il avait vécu dans l'Espagne de Franco, mais aussi dans l'Angleterre de Margaret Thatcher. Alors il y a le motif de l'aigle, il y a son casque, ça rappelle les symboles du fascisme, il y a les fermetures éclairs, les chaînes, les genouillères, ça c'est plutôt du côté du punk. Et le journaliste du Guardian d'avancer que des milliers de parents ont acheté à leurs enfants des paraboles transgressives contre l'autorité. Une satire teintée de punk sans le savoir, totalement à l'opposé donc des comics américains. Esquerra a instillé un instinct rebelle chez les jeunes lecteurs. En revanche, une revanche, écrit l'éditorialiste, sur l'Espagne de Franco et l'Angleterre de Thatcher.
Allez, la mondialisation des cultures, c'est aussi l'arrivée en Afrique du commerce en ligne.
Une conférence sur le sujet s'est tenue à Nairobi au Kenya, organisée par l'Union africaine. Le commerce en ligne, estimé à 8 milliards de dollars en 2014 en Afrique, pourrait atteindre 75 milliards de dollars dans 7 ans, selon le cabinet McKinsey. Mais parmi les défis, les infrastructures, la logistique transfrontalière et à l'intérieur de chaque pays, des géants ont senti le potentiel et commencent à investir, comme nous le dit ce consultant Sid Boubaker.
Vu la montée de la clientèle, eBay, Amazon place 10 millions, 30 millions d'euros en partenariat avec Jumia, par exemple, pour mettre en place des plateformes de distribution. Ces plateformes de distribution vont générer des emplois et vont donc booster les ventes et, à mon avis, vont aussi réduire les coûts des produits.
L'un des enjeux, c'est de décloisonner un marché au potentiel immense, mais aussi de protéger les données en ligne des clients. Là aussi, le continent a encore beaucoup à faire.
Allez, on a commencé avec du cinéma, on termine en musique.
Mi amo Roberto.
Vous connaissez là ?
Pas du tout.
On fait pas de blind test là. Non, c'est nouveau. C'est Brockhampton.
Mais quelle méchanceté !
C'est un groupe de hip-hop américain qui est né au Texas. Son album qu'on entend, Iridance, vient de se classer numéro 1 au classement des ventes Billboard. Plus de 100 000 disques écoulés la première semaine. Énorme carton. Brockhampton fait mieux qu'Eminem. Les spécialistes parlent du groupe le plus excitant de la scène hip-hop depuis le temps clan. Et ce qui est aussi remarquable, pourquoi je vous en parle de
pourquoi
ce
oui,
groupe
pourquoi
eh bien, c'est parce que pour la première fois, l'un de ses membres affiche ouvertement son homosexualité. Il s'appelle Kevin Abstract. Lui ne veut pas qu'on le définisse seulement par son orientation sexuelle. Il veut juste normaliser le fait qu'il est gay dans un espace, il le reconnaît traditionnellement homophobe. Le hip-hop a déjà connu des artistes homo, hein, Frank Ocean, Taylor Bennett. Jay-Z a aussi parlé de la sexualité de sa mère récemment. Mais cet album en tête des ventes, c'est quand même un signal très fort.
Eh ben, écoutez, Amélie, merci beaucoup. et restez avec nous puisqu'on n'est pas très loin de votre sujet. Je vais vous faire découvrir justement un New Delhi gay dans l'escale reportage. Depuis, la dépénalisation s'est venue extrêmement vite.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et nous voici donc en Inde, c'est là que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, dans une Inde donc nouvellement libérée de sa pénalisation de l'homosexualité. C'était le 6 septembre dernier, ce moment important, on a évidemment eu l'occasion d'en parler ici même. Bonsoir Sébastien Farcy.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et les conséquences positives, elles commencent dès maintenant. D'abord, il y a beaucoup d'homos qui sont sortis du placard, mais pas seulement, ce qu'on voit aussi sortir du placard, ce sont des idées, des commerces, des bars, des restos. Tout le monde a bien compris que les gays indiens représentaient un énorme pouvoir d'achat. Et voici ce que ça donne, notamment donc à New Delhi, où une ville arc-en-ciel est sortie de terre, Sébastien.
Il est minuit passé dans une boîte branchée de New Delhi. Sur la piste, les hommes dansent ensemble, se draguent, s'embrassent à pleine bouche. Soudain, les projecteurs illuminent la scène. Une femme en pantalon, les cheveux courts et les seins effacés, surgit dans une démarche virile. C'est Drag King, une artiste lesbienne. La scène est rare, quasiment unique en Inde. Nous sommes ici au Kittisou, l'une des seules discothèques à organiser des soirées pour la communauté LGBT. Ravi, un jeune homme d'une vingtaine d'années porte un chemisier moulant et une ligne de maquillage sur les paupières.
Dehors, on ne peut pas se balader ainsi. Soit les gens se moquent de nous, soit ils nous demandent de coucher avec eux. Ici, nous retrouvons des personnes qui nous ressemblent. Et nous nous sentons libres d'être qui nous sommes, car chacun comprend ce que l'autre a dans son cœur.
Le fondateur de ce lieu s'appelle Keshav Suri, un entrepreneur homosexuel et directeur général de la chaîne d'hôtels de luxe Lalit. Cet homme, qui est marié à un Français, fut l'une des personnes à réclamer la dépénalisation de l'homosexualité devant la Cour suprême indienne. Et l'un de ses arguments était tout simplement économique.
De nombreux rapports ont montré que la communauté LGBT possède un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne. Dans ma requête de dépénalisation, nous avons donc demandé pourquoi nous freinions le tourisme de ce pays. Il y a en effet beaucoup de personnes aisées et LGBT dans le monde qui viennent de pays comme la France et qui veulent visiter un pays fascinant comme l'Inde. Mais ils ne le faisaient pas car le code pénal indien pouvait être utilisé pour les harceler.
Maintenant que l'homosexualité n'est plus un crime en Inde, les commerces dédiés à la communauté n'ont plus à se cacher. Et cela réjouit Jérôme Cousin. Ce Français homosexuel de 57 ans, installé dans le pays depuis 18 ans, a récemment ouvert le Mykonos, un petit palais de bien-être pour les gays indiens, comprenant spa, hôtel et restaurant, le tout lové dans une ruelle de New Delhi. Il nous fait visiter les lieux.
Donc du spa avec la réception. D'accord. Et puis bon, en dessous on peut pas y aller maintenant, mais enfin en dessous donc on a deux étages encore. Un étage avec la steam room, le sauna sec, le jacuzzi, et puis un autre étage en dessous avec les cabines de massage. Donc on a trois étages, on a en tout, on a 12 000 square feet. 12 000 square feet, ça fait à peu près 1500 mètres carrés.
En fait, c'est en plus du massage, il y a tout ce qui est sauna.
Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas de massage. Les gens ici ont l'option, ont deux options. Ou ils prennent l'entrée du spa, c'est-à-dire qu'ils peuvent de façon illimitée, depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture, rester, faire un peu de gym, profiter du jacuzzi, faire de la steam, du sauna, prendre des douches, venir s'asseoir ici, manger, lire le journal. Enfin voilà, ils peuvent. On vient pas ici spécialement pour prendre un massage. On vient ici pour passer du bon temps.
Et pour être aussi entre nous.
Voilà, pour discuter, pour rencontrer des gens nouveaux. Voilà. C'est un lieu de rencontre, en fait. Il y a de la musique douce. Enfin bon, le vendredi soir et le samedi soir, on fait des parties. Les gens dansent en dessous, autour du jacuzzi. On met de la musique un peu plus disco, un peu plus club, avec la machine à faire de la fumée, avec les disco lights, avec Bollywood, avec tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'ils aiment, quoi, en fait.
Qu'est-ce que vous avez vu comme changement depuis que la loi a été abrogée?
Ben, on a vu des nouveaux clients, des gens qui n'osaient pas venir avant, parce que bon, on a toujours dit à nos clients, bon ben c'est un endroit qui est safe, vous allez être tranquille, on va pas vous embêter, mais ça fait rien.
y a des gens qui n'osent pas, qui n'osaient pas. Ils avaient, un célibataire, ça va, mais un gars marié, s'il se fait arrêter par la police, s'il passe la nuit au poste, demain matin, il va falloir qu'il justifie à son épouse où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il, et puis pourquoi qu'il était en prison. Maintenant, ça n'existe plus, ça.
Et alors concrètement, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer? Alors légalement, vous dites, vous n'avez pas trop de problèmes jusqu'à
présent? Non, j'ai pas eu trop de problèmes, mais maintenant on va être quand même beaucoup plus libre. On pourra faire de la publicité, on va qu'on évitait un petit peu avant. Avant, on faisait de la publicité sur les sites gays, sur les sites internet réservés aux gays. Maintenant, bon, la publicité, on va pouvoir en faire partout.
Mais ce ne sont pas seulement les commerces homo qui veulent profiter de la situation. Les marques classiques de restauration ou de tourisme ont sauté sur l'occasion en peignant leur logo des couleurs de l'arc-en-ciel le jour de la dépénalisation. Monish Malhotra, militant LGBT et fondateur de l'agence de marketing Silver Monkey, décrypte cette soudaine expression de soutien.
Ces marques ont des protocoles qui les empêchent de soutenir ouvertement des activités illégales, et donc, jusqu'à présent, l'homosexualité. Maintenant, cette excuse a été jetée par la fenêtre. Et n'importe quel homme d'affaires malin doit sauter sur cette magnifique opportunité de charmer la communauté, car les LGBT, eux, sont prêts à être traités ouvertement comme des individus à haut revenu.
Il n'y a aucun chiffre officiel qui donne la taille de la communauté LGBT en Inde. Mais en Europe, entre 7 et 9% de la population se définit comme telle. En Inde, cela reviendrait donc à environ 100 millions de personnes.
Sébastien Farcy à New Delhi pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Sébastien. Et Stevie Wonder est là sur France Inter, Pastime Paradise.
Spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. And wasting most of their time glorifying days long gone behind. And wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation.
Stevie Wonder, Pastime Paradise sur France Inter, juste pour faire plaisir à Marie-Claude Pinson, tiens, l'arrêt de chef de l'émission qui fait des grands cris en régie.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is... Un jour dans le monde. Action!
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec un documentaire d'animation ce soir. Corinne, c'est une histoire qui a hanté la documentariste pendant près de 30 ans. 10 ans passés pratiquement à enquêter pour faire ce film. Au final, ça donne Chris de Swiss, un documentaire d'animation donc signé Anya Comfel. C'est une illustratrice, pardon, elle est d'origine suisse. Elle a voulu savoir ce qui était arrivé à ce cousin journaliste qu'elle aimait tant et qui avait disparu en Yougoslavie, donc dans les années 90. Bonne annonce d'abord.
I remember that something very important was happening. More than 20 years have passed since my cousin Chris died.
I've seen young guys who fight for an idea.
I want to understand why Chris, a young Swiss man who grew up in a peaceful country, joined a faraway war and ended up dead.
Voilà, donc il s'appelait Chris Wunderberg, c'est comme ça qu'on le prononce ?
Wunderberg.
Il travaillait comme pigiste pour la chaîne suisse Radio 24. Son corps a été retrouvé le 7 janvier 92 sur un champ de bataille en Croatie. C'est un jeune homme de 26 ans. Et Anya Comfel, donc, n'a jamais cru qu'il s'agissait d'un accident.
Personne, ni dans la famille, ni dans l'entourage du jeune journaliste, n'a imaginé qu'il aurait pu tomber pour s'être approché trop près du conflit. L'autopsie non plus, d'ailleurs. Sa dépouille portait des traces de coups de strangulation qui ont alimenté par la suite des hypothèses dignes d'un film James Bond. Chris Wunderberg était-il un journaliste, un agent secret ou un mercenaire, comme l'ont prétendu les autorités suisses? Pour le savoir, Anya Comfel a reproduit tous les films des événements. Elle s'est rendue à de nombreuses reprises en Croatie, a rencontré des témoins de l'époque, elle a rencontré des reporters de guerre qui avaient côtoyé son cousin. Elle a travaillé aussi à partir des carnets qui avaient été restitués à la famille. Beaucoup de questions, peu de réponses, mais la certitude que ce cousin qu'elle avait tant idéalisé avait sans doute quelque chose de sombre.
Moi, je suis pas un reporter de la BBC. Je suis illustratrice et j'ai eu vraiment des problèmes de mettre toute cette histoire ensemble, de trouver le narratif du film, parce qu'il y a beaucoup de traces qui s'arrêtent tout d'un coup. Et j'avais l'impression qu'il me manquait un moyen de raconter toute cette histoire. Je pense qu'au début, tout était plus clair, parce que je pensais, ok, ça ce sont les bons et ça ce sont les personnages mauvais. Mais en fait, la vie n'est pas si facile et il avait aussi une côté très noire. Il pensait encore qu'il est journaliste, mais en fait, he switched sides. Il a traversé cette ligne qu'il ne faut vraiment jamais traverser comme journaliste. Il a pris des armes, ça ne va pas du tout. Et sur le papier, il était mercenaire.
Donc 7 ans d'enquête et toujours des zones d'ombre, on l'a entendu. Anya Comfel, elle a essayé de développer une théorie qu'elle aborde dans ce film. Témoin à l'appui, son cousin serait mort parce qu'il était en train d'écrire un livre explosif sur les milices proches du pouvoir.
Une milice qui aurait été financée par l'Opus Dei, c'est ce que raconte Face Caméra, l'un des témoins du documentaire. La dernière journaliste à avoir croisé le chemin de Chris quelques jours avant sa mort et qui évoque des manuscrits que personne n'a jamais retrouvés par la suite. La théorie est tentante, mais Anya Comfel a dû se résoudre à l'idée qu'elle n'aurait peut-être sans doute jamais la réponse à sa question.
Je crois que le plus difficile dans cette histoire en général, c'était de trouver si c'est vrai ou pas vrai ce que les personnages me disent, parce que c'est un milieu avec beaucoup de rumeurs. Non, c'était pas facile de faire ce projet. On a eu aussi quelques problèmes politiques en Croatie. Le gouvernement a changé à Zagreb, et à ce moment-là, nos problèmes ont commencé. Je me demande toujours qu'est-ce qui se serait passé si Chris était mort en Serbie.
Il y aura fallu 7 ans pour réaliser ce film, raconté à la première personne, qui mélange des images d'archives, des interviews, de l'animation, des dessins en noir et blanc qui sont clairement morbides, mais qui dégagent une réelle poésie. C'est un très beau documentaire.
Voilà, ça s'appelle Chris de Swiss, c'est au cinéma cette semaine. Corinne Pellissier, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Et le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Dans 4 jours, Jean-Marc, 150 millions d'électeurs brésiliens sont appelés aux urnes. Premier tour de la présidentielle. On y sera bien sûr au Brésil, notamment avec Olivier Pujat dès demain soir. Ce qui était encore impensable il y a quelques semaines devient possible. La victoire de l'extrême droite avec, et ça c'est un fait nouveau, le soutien des milieux économiques. Et c'est votre monde à l'envers ce soir.
Savez-vous ce qu'est, Fabienne, l'Ibovespa? Eh bien, l'Ibovespa, c'est le Dow Jones ou le CAC 40 brésilien, le grand indice boursier de Sao Paulo. Paulo, la capitale économique du pays. Au cours du mois écoulé, l'Ibo Vespa a grimpé de 13%. Et hier, en une journée, il a pris près de 4%. Et là, à l'instant même, là, je regarde tout en vous parlant, il prend 2,85%. La séance boursière est encore en cours là-bas. La monnaie brésilienne, le real, remonte face au dollar et les actions de plusieurs grandes entreprises sont aussi en forte hausse. Plus 8% pour la compagnie pétrolière Petrobras, 11% pour la compagnie d'électricité Electrobras, 7% pour les grandes banques, etc. Vous avez compris, donc les marchés financiers brésiliens sont optimistes. La presse de Sao Paulo dit même qu'ils sont euphoriques. Nous sommes effectivement à 4 jours du scrutin présidentiel, sans doute le plus incertain de ces dernières décennies, dans cet immense pays de 8 millions de kilomètres carrés, première économie d'Amérique latine. D'habitude, les milieux économiques détestent l'incertitude. Mais là, c'est simple, ils ont choisi leur camp. Ils espèrent la victoire de l'extrême droite. Pourquoi le cours de la bourse de Sao Paulo a-t-il particulièrement bondi hier? Parce que dans le dernier sondage de l'Institut Datafolia, je vous le montre ici en studio, Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, caracole en tête avec 32% des voix devant le candidat de gauche, Fernando Haddad, 21%. Haddad, c'est l'homme adoubé par Lula, qui est toujours en prison. Et Bolsonaro l'emporterait d'une courte tête au second tour. Depuis 3 semaines, depuis qu'il a été victime d'une attaque au poignard, Bolsonaro progresse non-stop et plus il monte, plus la bourse monte aussi.
Et d'ailleurs, il fait même pas campagne puisqu'il est toujours à l'hôpital.
Exactement, il fera rien avant le premier tour.
Exactement. Donc pour les milieux économiques, l'extrémisme de Bolsonaro, c'est sans importance.
Oui, c'est ça, de toute évidence. Et pour mesurer la portée de ce choix, il faut quand même rappeler qui est Bolsonaro. On n'est pas en train de parler d'un candidat qu'on pourrait qualifier pudiquement de droite radicale. C'est un authentique dirigeant d'extrême droite. C'est d'abord un ancien capitaine de l'armée qui se fait appeler par ses partisans Mito, le mythe, hein, modeste, le monsieur. Et son colistier pour la vice-présidence, c'est un général, Hamilton Mourão. Les deux sont des nostalgiques de la dictature militaire qui a dirigé le Brésil avec torture, gâchette facile pendant 20 ans, de 64 à 85. Bolsonaro est misogyne, raciste, homophobe, partisan de la légitime défense, opposant à l'avortement, etc. Une petite sélection de ses formules. Les homosexuels sont le produit des drogues. Il faut tuer les délinquants. Certaines femmes ne méritent pas qu'on les viole. Dans ce pays qui est marqué par les inégalités, la corruption, l'insécurité, Bolsonaro promet un gouvernement composé pour moitié de militaires. Il faut donc s'attendre, s'il l'emporte lors du second tour prévu le 28 octobre, à un recul majeur des droits et des libertés publiques. Et c'est ce choix que font, connaissance de cause, les milieux économiques brésiliens.
Donc ce que ça veut dire, c'est que pour eux, les libertés publiques, au fond, c'est secondaire.
Alors c'est pas une surprise de voir une partie de l'électorat jeune séduit par Bolsonaro parce qu'il n'y a pas de mémoire de la dictature. C'est pas davantage une surprise de voir les grands propriétaires terriens derrière lui. Il fait partie de leur lobby. Ce n'est pas une surprise non plus que l'électorat des églises évangéliques le soutienne. Son slogan est « Dieu au-dessus de tout ». Non, le fait nouveau, c'est bien la bascule des milieux économiques et financiers. Ils sont traditionnellement acquis à la droite, ça c'est un fait, mais là, ils font le choix de l'extrême droite, ce qui est très différent. Ils font le pari que Bolsonaro appliquera une politique de privatisation des grandes entreprises, de limitation des retraites par répartition, de liberté bancaire, et c'est ce que préconise son principal conseiller économique, Paulo Guedes, un ultra-libéral. C'est tout ce qui importe pour la bourse de Sao Paulo. C'est presque une caricature. Seuls les intérêts financiers comptent, au diable les libertés.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Merci beaucoup. On y reviendra donc demain au Brésil en reportage avec Olivier Poujade. Merci beaucoup. Le 18 20 la suite, c'est le téléphone sonne. Et juste avant, Sébastien Paour pour le journal.